Bienvenue et bon réveil sur France Inter, il est 7h. Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'actualité ce matin, c'est aussi ce couac hier soir au Stade de France lors du coup d'envoi du match France-Albanie quand l'hymne national s'en mêle les pinceaux et crée un incident diplomatique. Les autres titres, Laurence.
La stratégie du Premier ministre britannique s'englue dans une crise politique. En désaccord avec Boris Johnson, la ministre du Travail britannique démissionne. Nous reviendrons dans ce journal sur cet échange historique de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie et notamment la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. L'ennemi de Batman, Joker, rafle la mise. Nous irons à la Mostra de Venise.
L'invité à partir de 8h20, l'essayiste Brice Couturier. Il signe son dernier livre, 1969, année fatidique, paru aux éditions de l'Observatoire.
France Inter. Grand moment de solitude hier soir au Stade de France, au début de la rencontre France-Albanie, match de qualification pour l'Euro 2020, remporté 4-1 par la France. Voilà un couac qui a froissé les joueurs albanais. L'hymne d'Andorre a été joué par erreur au coup d'envoi de la rencontre. Du coup, les Albanais ne voulaient pas jouer tant que la bonne musique n'avait pas été retrouvée. Et comme si cela ne suffisait pas, le speaker du Stade de France s'est excusé de cet incident auprès des joueurs arméniens. Au lieu d'Albanais, bien sûr, rebelote, rebourde. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Retour sur ce début de match épique avec Bruno Salomon.
Dès les premières notes, les visages des joueurs albanais se sont décomposés. L'hymne d'Andorre à la place de leur hymne national. Les fans albanais présents au Stade de France ont sifflé, éructé. Les joueurs, eux, sont restés calmes à l'image du défenseur François Vézely.
L'erreur est humaine. Après, c'est clair que peut-être dans les essais, si quelqu'un avait pu contrôler une fois auparavant, ça aurait pu être évité, mais voilà, enfin, c'était vraiment bizarre. Ouais.
La suite, c'est un flottement total. Les joueurs qui restent près de leur banc, les officiels qui discutent et de leur côté, les Bleus qui observent, gênés par la situation. Témoignage d'Antoine Griezmann.
Tous surpris, un peu leur demander pardon. C'est une grosse erreur, pas à reproduire. Mais on a attendu avec de la patience, il y a eu cette hymne.
Finalement, après 10 minutes et un dernier couac du speaker du Stade de France qui a annoncé l'hymne arménien, c'est bien l'hymne albanais qui a été diffusé. Ce genre de situation est rare et la France a frôlé l'incident diplomatique. D'ailleurs, Noël Le Graët, le président de la fédération, a quand même dû présenter ses excuses à l'ambassadeur d'Albanie et au président de la fédération du pays qui ont très peu goûté cette soirée.
Donald Trump a annoncé hier soir à la surprise générale qu'il mettait fin aux négociations de paix engagées depuis un an avec les talibans. Ces négociations semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord historique après 18 ans de conflit en Afghanistan. Une marche arrière du président américain après avoir appris que les talibans étaient responsables de l'attaque jeudi dernier dans Kaboul. Attaque qui a tué un soldat américain et 11 autres personnes.
L'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, c'est peut-être un premier pas vers la fin d'une guerre qui a fait 13 000 victimes en 5 ans.
Et parmi ces prisonniers, ces 70 prisonniers, le plus connu d'entre eux, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, 43 ans. Il avait été arrêté en 2014 en Crimée après avoir protesté contre l'annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne. La Russie l'avait condamné à 20 ans de camp pour préparation d'attaques terroristes. En France, de nombreux réalisateurs se sont battus pour sa libération et en particulier Christophe Rugia, membre de la Société des réalisateurs de film, membre très actif de son comité de soutien. À l'annonce de sa libération, Christophe Rugia a salué hier la fin d'un long combat.
Ça a été un interminable combat, surtout pour lui. Oleg s'est révélé en fait au fur et à mesure du temps. Au départ, c'était un cinéaste emprisonné parce qu'il a dénoncé l'annexion de la Crimée. Et puis, au moment de sa grève de la faim, en début mai l'année dernière, où il s'est mis en grève de la faim illimitée, pas pour demander sa propre libération, mais pour demander la libération des 70 autres Ukrainiens, prisonniers politiques ukrainiens qui étaient enfermés avec lui, son combat a pris une ampleur énorme. Cette grève de la faim a duré 145 jours. Derrière, il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, puis il a eu le prix Sakharov 2018, puis il a reçu le Magnitsky Award 2018. C'est devenu une figure de la dissidence du 21e siècle, une des figures très importantes. C'est un grand monsieur qui est sorti aujourd'hui.
Une mobilisation de rentrée des Gilets jaunes marquée par des violences à Rouen comme à Montpellier. Des heures ont très vite éclaté avec les forces de l'ordre hier après-midi. Ont donné lieu à des dizaines d'interpellations selon la préfecture de l'Hérault. Il y avait 500 Black Blocs environ dans le cortège à Montpellier. Illustration avec ce reportage.
Le rassemblement place de la Comédie en début d'après-midi s'était pourtant fait dans le calme. Mais à peine arrivé à la gare, les premiers affrontements ont opposé forces de l'ordre et Gilets jaunes. Dispersé, le cortège se reforme et la tension monte encore quelques minutes plus tard quand une voiture de police prend feu, selon la préfecture, à cause d'un cocktail Molotov. Les forces de l'ordre lancent les premières lacrymogènes dans la foulée. Cela ne cessera plus de l'après-midi. 400 ont été tirés en quelques heures. Gilets jaunes de toujours, Christophe ne s'attendait pas à une rentrée comme celle-là.
C'était un gros acte, quoi. Je pense un des plus violents, on va dire, sur Montpellier. Ouais. Il y a eu des jets sur les policiers, il y en a toujours. Hein. Là, il y en a eu quand même pas mal. Mais par contre, enfin, la riposte en face, c'était une pluie. J'en ai jamais vu autant.
Mais pour Amélia, la journée de mobilisation est quand même une réussite.
Au départ de la marche, donc au rassemblement, on devait être au moins 2000 personnes. Les bataillons de policiers ou de CRS qui ont été déployés dans toute la ville, ça démontre bien qu'ils avaient envisagé un grand rassemblement. Je suis contente du résultat. Les Gilets jaunes aujourd'hui ont été visibles.
À la fin de la journée, la place de la Comédie était jonchée de pavés, de verres et surtout de morceaux de grenades lacrymogènes.
Elena Loison de France Bleu, Hérault.
Un nouveau coup dur pour Boris Johnson.
Après la perte de sa majorité au Parlement et le camouflet imposé par le Parlement qui a voté pour demander un report du Brexit, le Premier ministre britannique doit désormais gérer une deuxième démission au sein de son gouvernement. Amber Rudd, la ministre du Travail, annonce qu'elle se retire de son poste correspondance à Londres de Marina Daras.
Dans une lettre publiée sur Twitter, Amber Rudd explique qu'elle ne peut pas rester les bras croisés alors que de bons et loyaux députés conservateurs sont expulsés. Elle parle de la décision très controversée de Boris Johnson de destituer les 21 députés conservateurs qui ont voté contre le gouvernement pour empêcher qu'une sortie de l'UE sans accord soit possible. Une décision qu'Amber Rudd qualifie d'atteinte à la démocratie et de vandalisme politique. L'ancienne ministre ne mâche pas ses mots et explique également qu'elle ne croit pas que Boris Johnson veuille vraiment conclure un accord avec l'UE. D'après elle, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour préparer le pays à un divorce brutal avec l'UE, mais n'a pas mis la même énergie et les mêmes ressources dans les négociations. Amber Rudd, considérée comme l'une des rares ministres pro-européennes au sein du gouvernement Johnson, garde son poste de députée, mais devient désormais une parlementaire indépendante, renonçant à l'étiquette du Parti conservateur pour les prochaines élections. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
La 76e Mostra de Venise s'est refermée hier. Le film Joker de l'américain Todd Phillips succède à Alfonso Cuarón au palmarès du Lido. Luca Marinelli, Ariane Ascaride remportent les prix d'interprétation. Roman Polanski, malgré la polémique autour de sa participation à la compétition, décroche le grand prix du jury, tandis que le Hongkongais Yofan remporte le prix du scénario. À Rome, la correspondance d'Olivier Tosseri.
Todd Phillips triomphe sur le Lido. Il est venu retirer son prix avec son acteur principal Joaquin Phoenix, dont l'interprétation a impressionné le jury. Un jury qui ne s'est pas laissé influencer par la polémique qui a entouré l'autre grand favori de la compétition, le film J'accuse, du réalisateur franco-polonais Roman Polanski. Il obtient le grand prix du jury malgré la controverse suscitée par sa sélection. La présidente du jury, Lucrecia Martel, s'était dite au premier jour du festival très gênée par sa présence en compétition avant de revenir sur ses propos en disant qu'elle n'y était en aucune façon opposée. Le palmarès le prouve. Il honore la France. La coupe Volpi de la meilleure interprète féminine est allée à la française Ariane Ascaride pour Gloria Mundi de Robert Guédiguian. Celle du meilleur interprète masculin revient à l'italien Luca Marinelli pour Martin Eden de Pietro Marcello. L'acteur italien a dédié son prix à toutes les personnes qui sauvent des gens en mer. Ariane Ascaride a rappelé quant à elle qu'elle venait d'une famille d'immigrés italiens venus en France pour fuir la misère et a dédié son prix à ceux qui vivent pour l'éternité au fond de la Méditerranée. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
En tennis, Bianca Andreescu prive Serena Williams d'un 24e record en Grand Chelem. La prodige canadienne de 19 ans a remporté la finale dames de l'US Open. C'est aussi la première canadienne de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem.
Et le journal des sports sur France Inter ce matin, ce sera à 8h10. Merci Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Jean-Pierre Hameau avec des températures un peu justes hein, pour un 8 septembre.
Oui Eric, les maximales cet après-midi seront bien en dessous des moyennes de saison, comprises généralement entre 15 et 23 degrés. Dans le détail, n'attendez pas plus de 15 degrés à Besançon, 17 à Metz, Nancy et Abbeville, 18 à Lille comme à Dijon et Lyon, 19 degrés dans la capitale mais aussi à Orléans, Brest et Cherbourg. On passera difficilement la barre des 20 degrés à Tours, prévoyez 21 à La Rochelle, 23 à Toulouse, ça sera un peu plus doux dans le sud avec 24 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 à Bastia. Mais attention, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km/h et le Cap Corse ne sera pas épargné cet après-midi avec des rafales d'ouest proches de 120 km/h. Et puis côté ciel, prévoyez un régime d'averse sur un grand quart nord-est avec en prime des orages cet après-midi près des frontières gagnant les Alpes-Maritimes. Le soleil va briller sans partage autour de la Grande Bleue et partout ailleurs, cumulus et éclaircies vont se partager le ciel.